Bonjour et bienvenue. Depuis 10 ans, on peut appeler ça une tradition. Chaque fin d'année, toute l'équipe du Mag'Éco se retrouve pour une émission spéciale. Nous réexaminons nos bibliothèques et nous vous présentons les livres, les BD, les docus, les films qui sont sortis ces 12 derniers mois et qui nous ont intéressés, voire fait progresser. Bref, ce samedi 26 décembre, il s'agit de mettre en lumière tout ce qui a été vraiment bien en 2020. Si, si, plein de choses. Entre nous, on appelle ça notre plateau de fête. Et cette fois-ci, je vais vous dire, nous allons particulièrement le déguster. C'est un moment que nous avons d'autant plus attendu qu'il signifie que bientôt, cette année appartiendra au passé. Alors, dernier inventaire avant de tourner la page, j'espère. C'est parti.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et la réalisatrice de ce Mag'Éco spécial s'appelle Lauriane Toulmont. Valentin Pérez est attaché de production. Antoine Cruchon et Guillaume Roux nous accompagnent à la technique. Bien sûr, autour de la table, vous trouvez toute l'équipe. Madame Virboulot, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne, bonjour Laurent.
Bonjour.
Et Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour à vous Christian.
Bonjour à tous.
Nous avons invité deux auteurs à nous rejoindre ce samedi durant l'émission. Vous entendrez l'ancien candidat à la présidentielle 2017, Benoît Hamon, et son plaidoyer pour le revenu universel. Et puis la sociologue Céline Bessière qui a coécrit avec Sybille Golac une enquête sur la famille et les inégalités. Ça s'appelle « Le genre du capital », c'est passionnant, vous l'entendrez. Mais tout de suite, notre premier thème, évidemment c'est la pandémie. Comment la penser ? Comment envisager ce fameux monde d'après ?
La ville, elle est toujours aussi déserte. Le temps a suspendu son vol à Wuhan. C'est une ville fantôme où on entend désormais les oiseaux, où le ciel s'est éclairci faute de pollution. Et on croise même aujourd'hui des chiens et des chats errants dans les rues, ce qui est assez rare en Chine. On est vraiment dans la peste de Camus, mais c'est une vraie histoire et il ne se passe rien, absolument rien, sauf évidemment dans les hôpitaux bondés, les stades, les crématoriums de la ville. Il y a eu encore 68 morts annoncés aujourd'hui et plus de 500 cas de contamination.
Ça paraît tellement lointain. C'était le 25 février dernier. Le journaliste Arnaud Miguet, dans la matinale de France Inter, le correspondant permanent de France Télévisions en Chine, va se trouver être le seul journaliste étranger dans la ville de Wuhan pendant la quarantaine. Et à partir de là, la pandémie, la crise sanitaire, la crise économique. Christian Chavagneux, des économistes qui n'avaient jamais vu ça et qui donc ont été inspirés, en tout cas un bon nombre ont été inspirés. Vous, quel ouvrage nous conseillez-vous sur le sujet ?
Alors, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie par Robert Boyer, aux éditions La Découverte. Robert Boyer, d'habitude, c'est un économiste de fond structurel qui prend son temps, exercice inédit. Il commente à chaud cette pandémie et ses effets économiques. Alors, il commence par nous rappeler que, évidemment, la théorie dominante qui nous dit qu'à chaque fois qu'on s'écarte du fonctionnement normal, l'économie va revenir automatiquement à la normale, ça ne nous sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que peut apporter Robert Boyer ? Il nous dit d'abord, est-ce qu'on peut tirer les enseignements d'une quinzaine de grandes épidémies historiques ? Et là, il nous dit, sur le plan économique, première conclusion, les effets économiques durent en moyenne pendant 40 ans.
Donc il y en a vraiment
pour un moment,
une crise.
Pour une pandémie, et des grosses pandémies comme celle qu'on vient de connaître. Les salariés sortent plutôt gagnants, généralement ils meurent, et donc ça fait pousser les salaires à la hausse. Les entreprises perdent en rentabilité, et ça pendant un long moment. La fin du livre, c'est la plus passionnante, la deuxième moitié, c'est sur quel capitalisme après ce coronavirus. Et il nous dit, en gros, Robert Boyer, il y a trois possibilités. Il y a le capitalisme centralisé, transnational, privé. En fait, c'est les GAFA, d'accord ? C'est ceux qui ont une énorme force de frappe, une énorme force de frappe financière par rapport aux autres entreprises qui vont piquer la valeur ajoutée. Ils transforment les contrats de travail en contrats de service, comme l'explique souvent Sandrine Foulon. Ils sont puissants politiquement et ils paient à peine les impôts. Premier capitalisme. Deuxième, celui de la Chine. C'est un autre capitalisme centralisé, mais celui-là, il est étatique et national. C'est un capitalisme de surveillance antidémocratique. Et puis au milieu de tout ça, il y a la pauvre petite Europe. Il appelle ça, Robert Boyer, un capitalisme défensif, faible. Et pour lui, il dit malheureusement, je pense que l'Europe va se faire écraser par les deux autres capitalismes.
Mais ça, c'était déjà la situation avant, non ? C'était les GAFA, l'Europe, la Chine.
Que la pandémie a renforcé le système chinois. On voit un petit peu l'efficacité du côté des vaccins et surtout a renforcé celui des GAFA et du numérique. Et la pauvre Europe encore plus perdue au milieu de tout ça.
Et vous, Sandrine Foulon, Roland. Un livre sur la pandémie qui vous a fait réfléchir.
Oui, alors maintenant qu'on a tous mangé la dinde de Noël, je peux vous parler de ce bouquin qui peut couper l'appétit. Alors ça s'appelle Les pandémies, une production industrielle par Lucille Leclerc aux éditions du Seuil. C'est une journaliste extrêmement fouillée. Alors dans ce livre, elle revient sur les origines des pandémies, le SRAS, Ebola, la grippe porcine, la maladie des oreilles bleues qui touche les porcs. On apprend beaucoup de choses dans ce bouquin. Alors elle nous rappelle que 15% des maladies infectieuses sont dues à la déforestation des forêts, parce qu'on détruit l'habitat des animaux sauvages. Mais ce qu'elle dit, et c'est toute la thèse de son bouquin, c'est l'élevage industriel. C'est absolument incroyable. Les élevages industriels, on voit que les pandémies ont triplé en 15 ans dans les élevages industriels, donc les porcs, les poulets, c'est tout le modèle de production de viande qui est remis en cause. Quand vous condensez des animaux stressés, des poulets par exemple, dans un espace réduit, ils ont une feuille A4 pour vivre, ils grandissent sans la lumière du jour, ils vivent en moyenne 36 jours, c'est 4 fois moins qu'en 1950, et pourtant ils atteignent le même poids, parce qu'ils sont bourrés d'antibiotiques, de médicaments. Donc en fait, il ne faut pas vous faire un dessin, quand une épidémie se déclare, tout le cheptel, tout est touché en quelques heures.
Tout l'élevage, oui.
Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que Lucille Leclerc interroge le modèle de la biosécurité, parce que la biosécurité, c'est censé protéger tous ces cheptels des épidémies. Or, en fait, le problème, c'est que ça conduit partout dans le monde à détruire les élevages de plein air, parce qu'on dit que c'est dangereux. Et à la place, on construit des gigafermes, il n'y a plus un brin de paille. Donc, en fait, on a des animaux qui sont à la fois, encore une fois, condensés, concentrés dans ces élevages. Et c'est absolument... C'est tout ce modèle qu'il faut revoir. Alors, elle a une jolie formule qu'elle emprunte à l'anthropologue Roberto Beneducci. Le seul vaccin, c'est de conserver la mémoire de ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il suffit d'observer toutes les pandémies qui ont eu lieu ces dernières années pour se dire qu'il faut quand même changer ce qu'on mange dans nos assiettes. Ça nous évitera, déjà, on mangera mieux et ça nous évitera des pandémies.
Pandémie, une production industrielle de Lucille Leclerc. Donc c'est au Seuil. Laurent Bigorgne, à vous, votre livre sur les pandémies, le virus qui vous a fait réfléchir, ou bien le monde d'après.
Eh bien moi j'ai choisi de Patrick Artus et de Pastret, leur nouvel opus, l'économie post-Covid. Alors, l'avantage de ces auteurs, c'est qu'à chaque crise, ils nous écrivent un livre pour savoir comment en sortir, ce qui est déjà le cas en 2009. C'est utile parce que l'atterrissage, on le sait tous, est incertain. Les deux auteurs ont de l'expérience. Et je pense que l'effort pour penser effectivement à l'économie après la pandémie, il est nécessaire tel qu'il apparaît dans le livre, mais peut-être pas évidemment suffisant. Alors ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est qu'ils s'appuient sur des certitudes et ils nous disent il faut maintenant réussir à distinguer, à mieux faire le départ, ce que le politique ne sait plus faire, entre le court terme et le long terme, d'une part, et d'autre part, et ça c'est un peu mon jardin secret, l'éducation, disent-ils, est la clé de toutes les réformes. Et d'ailleurs, l'éducation, c'est ce qui va permettre de rehausser, on espère, après la crise, le niveau de croissance potentiel. On sait qu'il n'était pas très élevé avant la crise, entre 1,2, 1,5, on ne sait pas bien. Mmh. Et puis, alors là, pour le coup, un peu au doigt mouillé, les auteurs nous disent 0,5, je ne sais pas sur quoi ils s'appuient, mais...
C'est-à-dire que si on améliore le système éducatif, on peut augmenter de 0,5.
Non, c'est qu'on va avoir une croissance potentielle qui est tombée de 1,2 à 0,5, et il faut remonter la croissance potentielle, et l'éducation, évidemment, une des clés pour remonter la croissance, le capital humain, la formation des uns et des autres. Quatre grands principes que j'ai aussi, avec lesquels on sera tous d'accord, il faut rétablir la conscience. Ce qui doit être craint est la crainte, disait Roosevelt en 1929, cité par les auteurs. L'effort demandé, Christian sera content, doit être partagé. Je pense que...
Vous aussi, Laurent.
Mais bien sûr. Ce qui me fait rester sur ma faim, c'est qu'il n'y a pas de vraie piste pour me faire efficacement dans le livre. On attend le plus 2. Et la crise va conduire à des ruptures presque dans tous les domaines, je pense qu'on a compris. Avec un point que j'ai bien aimé, c'est qu'au fond, les deux auteurs, quand ils qualifient le plan de relance, nous disent, on a mis 10% du PIB, 10 points de PIB dans les mesures contracycliques, sur le chômage partiel, sur les aides aux PME. Il y a seulement 4 points de PIB dans le programme de relance. Est-ce qu'on est vraiment structurel? Est-ce qu'on est vraiment efficace à 4 points de PIB versus 10 sur les mesures contracycliques? Le débat est ouvert. Et par ailleurs, last but not least, ils remettent en cause le principe de précaution au moment où le président nous explique qu'on va amender la Constitution, un peu comme Chirac l'avait fait sur ce sujet. Donc, après tout, les deux auteurs ont quatre principes, et je trouve que ces principes sont plutôt solides. Là où c'est moins simple, et je reste sur ma faim, c'est les ruptures qui sont proposées. Les ruptures qui sont proposées, d'abord, elles sont un pêle-mêle. Hein, on va soutenir les catégories les plus touchées, on va réformer réellement les retraites, je le souhaite en tout cas pour ce qui me concerne. On va créer un choc de compétences, on va faire que l'État et les entreprises vont mieux travailler sur les technologies d'avenir, on va travailler sur d'autres réglementations financières, on va assurer une véritable transition énergétique avec un pavé dans la mare au moment où on est évidemment dans les questions climatiques et écologiques, il nous faut une taxe carbone digne de ce nom. Mmh. On va inverser le processus de décentralisation et à la fin, juste rénover le financement du syndicalisme. Alors tout ça est à la limite audible, mais on distingue pas bien ce qui est un rêve de la France, ce qui est un rêve de l'Europe, et je trouve qu'on reste assez souvent sur sa fin, parce que, évidemment, sur cette piste de l'éducation qui m'avait plu, j'aurais aimé qu'on creuse davantage, c'est-à-dire comment est-ce qu'avec l'éducation, on peut permettre de passer la bosse, de passer la crise, et par ailleurs de corriger ce qu'on avait mal vu ou mal anticipé avant celle-ci.
Christian Chavagnier, ouais, je crois que vous aussi, vous l'avez lu, le
livre. Oui, c'est un petit livre de 120 pages, mais il y a deux livres en un, en fait. Il y en a un, c'est Les impacts échos de la Covid, les jeunes vont trinquer, moins de touristes, plus d'e-commerce, etc., de e-commerce, et il y a aussi les convictions réaffirmées des auteurs. Le capitalisme libéral est inefficace, et ça, on en a des pages et des pages, et j'ai bien apprécié la démonstration. Mais il faut aussi, Laurent disait, de nouvelles règles financières. Non, il faut suspendre les règles qui encadrent les banques, là je suis vraiment pas d'accord, refuser la hausse du SMIC, travailler plus, suspendre le principe de précaution. Il y a quand même quelques bonnes idées bien libérales qui sont glissées au milieu d'un livre sur l'évaluation du post-Covid, et là, bon, on est plus ou moins d'accord.
Bon, on en reste là. Ça s'appelle l'économie post-Covid, et c'est publié chez Fayard, des deux économistes de banque, Olivier Pastré et Patrick Artus. Alors, comment penser l'économie après la pandémie? Certains veulent aussi repenser le modèle social, l'État-providence. On a tous vu cette idée revenir, hein, le revenu universel. Le pape nous dit qu'il est pour. En France, il va y avoir un débat sur le revenu universel à l'Assemblée nationale. La ville de Strasbourg songe à l'expérimenter. Et puis, l'ancien candidat à la présidentielle 2017, qui en avait fait son cheval de bataille, nous propose cette année la somme de ses réflexions depuis sur le sujet. C'est un plaidoyer, et puis c'est notre premier invité. Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour.
Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel, c'est donc le livre que vous publiez. En 2017, pendant la campagne présidentielle, cette idée de revenu universel, vous l'avez poussée. On va dire que ça n'a pas rencontré de succès. Qu'est-ce qui vous laisse penser 3 ans plus tard que, ce sont vos mots dans le livre, le temps du revenu universel est venu?
Rien dans les constats que je faisais en 2017 n'a changé au point de me faire penser que cette idée n'est plus bonne. D'abord, le travail a poursuivi sa métamorphose, à la fois sous l'impact de la révolution numérique et sous l'impact d'une expérience que nous avons fait du mélange de différentes formes de travail à travers le confinement, puisqu'on faisait du télétravail, on était auprès de nos enfants pour les aider à travailler et à préparer leurs études, en poursuivant par du travail bénévole, parfois par du travail domestique aussi. Et ce mélange des formes de travail nous a amené à comprendre que le travail ne se résumait pas à l'emploi, et il me semble que c'est une des données avec lesquelles il faudra composer dans l'avenir pour penser la façon dont on construit une protection sociale qui soit conforme à l'économie réelle et pas à l'économie telle qu'elle fut au XXe siècle.
Vous dites aussi dans le livre que c'est un outil d'émancipation par rapport à ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire l'écologie, le défi écologique par exemple.
Oui, d'abord parce que ça redonne le choix. Et dans nos vies, on a parfois pas beaucoup de choix. En tout cas, ceux qui ont un petit salaire et le revenu universel, dès lors qu'ils complètent un salaire, dès lors qu'ils complètent une retraite, ils vous donnent le choix. Ils vous donnent le choix de basculer à temps partiel, ils vous donnent le choix de pouvoir imaginer un projet de création d'activité ou d'entreprise, et surtout, ils vous redonnent une capacité à négocier avec votre employeur. Et c'est cette possibilité du choix que moi, je souhaite qu'on réintroduise, y compris dans l'ordre économique. Jaurès disait qu'il fallait mettre la République dans l'atelier. C'était une façon d'aller au bout de l'idéal socialiste. On en est un peu resté à cette formule-là parce que finalement aujourd'hui, le citoyen, souverain dans l'ordre politique, dès lors qu'il accepte un contrat de travail, accepte un lien de subordination à l'employeur, c'est-à-dire une non-citoyenneté. Le revenu universel, parce qu'il vous libère de la dépendance exclusive au salaire, finalement fait entrer la citoyenneté dans l'ordre économique.
Alors ça dépend à combien il est ce revenu universel. C'est combien, c'est pour qui,
alors,
comment ça marche?
Un peu par convention, parce que j'avais défendu une formule à 750 euros pendant la présidentielle, j'ai gardé cette formule-là. Mais au fond, c'est un des éléments du débat. Parce que selon que le revenu universel est, pour certains, au niveau du seuil de pauvreté à 50%, c'est-à-dire près de 900 euros, voire 1000 euros ou inférieur, il ne couvre pas les mêmes besoins et il ne remplace pas forcément non plus les mêmes allocations. Moi, la formule que je propose remplacera les allocations familiales, puisque ce serait un revenu universel de la naissance à la mort, inconditionnel et individuel. Donc indépendant de votre situation conjugale ou familiale, et inconditionnel, c'est qu'on ne vous demande rien en échange, mais qu'il me soit permis de dire que le fondement philosophique et économique, pour une fois qu'on peut marier l'économie et la philosophie du revenu universel, c'est de rappeler que dans le PIB de la nation, la valeur ajoutée, elle est liée à notre travail, mais elle est liée aussi à la rente du travail de ceux qui nous ont précédés.
Les héritages, vous parlez
oui,
des successions.
Et l'idée géniale de Thomas Paine, qui, quand au cœur de la révolution américaine et française, pense le revenu universel, c'était de dire, bon, ne remettons pas en cause la propriété privée, elle est là, mais posons le principe que nous ne naissons pas pauvres tous, parce qu'il y a eu le génie de ceux qui nous ont précédés, cet héritage-là, que nous pourrions répartir en parts égales entre ceux qui naissent. Et ce revenu universel-là, il change radicalement la stratégie, et prend acte d'ailleurs de l'échec des stratégies de gauche depuis 10 ans, 20 ans, il prédistribue une partie de la richesse. Et l'instrument de la justice sera l'impôt, évidemment, dès lors que, aujourd'hui, on nous dirait je ne comprends pas que les plus riches perçoivent le revenu universel et pauvres également.
Est-ce qu'on a, besoin de vous le dire, de vous poser cette question quand même? Mais pourquoi cet universalisme? En quoi, aujourd'hui, par exemple, il y a 130 milliards d'euros d'épargne forcée du Covid? En quoi les gens qui ont pu épargner ont besoin d'un revenu universel à 750 euros
mais
par mois?
Mais ils n'en ont pas besoin pour vivre.
Et en quoi Bernard Arnault, la première fortune de France,
mais pourquoi Bernard Arnault serait-il remboursé sa grippe au même tarif que vous? C'est le cas pourtant. Ce que je pense, c'est que toutes les sociétés qui réservent des droits aux plus pauvres ne font que de pauvres droits. Cette formule-là, elle est vérifiée partout. À force de réserver les droits à une partie de la population, on fait tomber le consentement à l'impôt. Pourquoi ? Parce que les plus fortunés, ceux qui sont mis à contribution, s'interrogent sur leur contribution au mécanisme de solidarité dès lors que, finalement, ils n'en bénéficient jamais. Et moi, je pense qu'il faut maintenir un haut niveau de consentement à l'impôt, si possible, que les mécanismes de solidarité soient financés par tous, mais qu'ils aient comme contrepartie des droits soient universels, dès lors qu'ils sont financés ensuite par l'impôt, à due proportion des capacités de chacun.
Alors, dans ce livre, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous questionnez votre propre idée, vous allez là où sont toutes les interrogations critiques, il y a cette idée qu'il va falloir le financer, le chiffre, ça serait donc 500 milliards d'euros par an.
Vous en plus d'effectivement, oui, à trouver, 500 milliards à trouver, à plein régime.
Et vous savez bien vous-même, Benoît Hamon, le total des recettes fiscales dans le pays, c'est à peu près 270 milliards d'euros. Donc la marge que vous proposez, elle est très grande.
Oui, c'est une très grande marche, mais qui n'est pas, à mes yeux, plus grande que celle qu'a accomplie la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, je l'évoque en disant, le revenu universel à plein régime, c'est pas du jour au lendemain. Si vous n'élisez pas un président de la République, même si ça avait été moi en 2017, qui du jour au lendemain vous disait, ça y est, tout le monde démarre l'année avec 750 euros par mois. Il faudra donc y aller progressivement.
Ça, c'est la chronologie, mais parlez-nous du financement.
Le financement, moi,
ce sont des taxes et des cotisations?
C'est forcément des mises à contribution, ou des ménages ou des entreprises. Moi, je pense que, à revenu universel, il faut aussi un impôt universel. C'est-à-dire qu'au premier euro gagné au-delà des 750 euros de revenu universel, il faut que même symboliquement les plus modestes contribuent. Puis ensuite, je pense qu'une des pistes qu'il faut explorer, quoi qu'il se passe, qu'il y ait d'ailleurs un revenu universel ou pas, c'est que la fiscalité des entreprises, notamment, et des ménages, soit adaptée à la réalité des inégalités. Je pense aux inégalités de patrimoine dans ce pays, sujet sur lequel nous avions travaillé avec Thomas Piketty, à l'idée d'un impôt progressif sur les actifs nets des Français, et puis des contributions qui sont des contributions. Alors, il y a la fameuse taxe sur les robots, car rien de finalement de si invraisemblable que ça. Aujourd'hui, pour faire simple, je pense qu'on a une fiscalité qui favorise le remplacement de l'homme par la machine. Hélas, ce qui nous amène à rentrer, comme le dit très bien Bill Gates, que je cite d'ailleurs, dans cette ère de la substitution logicielle, ça va tellement vite qu'aujourd'hui, ma conviction, c'est que nous ne sommes plus en capacité d'absorber les conséquences sociales de cette, finalement, frénésie d'innovation technologique. C'est la raison pour laquelle ralentir n'est pas mauvais et le revenu universel peut nous y aider.
Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel, c'est publié aux éditions des Équateurs. Merci Benoît Hamon.
Merci Alexandra Ben-Saïd.
Voilà Benoît Hamon qui nous a emmenés sur le terrain de l'économie numérique. C'est le deuxième grand thème de la sélection de ce On n'arrête pas l'écho de fin d'année. Vivre avec les robots, vivre avec les GAFA, nous, citoyens, travailleurs, consommateurs. Et Sandrine, vous avez choisi le livre de Nicolas
Collin, Nicolas Collin, c'est un entrepreneur, c'est aussi un haut fonctionnaire.
Oui, il a cette double casquette et il dirige The Family. C'est une entreprise qui soutient les investisseurs ambitieux en France, comme il l'a défini lui-même. Alors ça s'appelle Un contrat social pour l'âge entrepreneurial. C'est chez Odile Jacob. Et alors, bon, sur le diagnostic, on peut être qu'en phase. Hein. En fait, ce que nous explique Nicolas Collin, c'est que le contrat social qui a assuré la prospérité, la stabilité pendant les 30 glorieuses ne fonctionne plus. En tout cas, il fonctionne plus pour les travailleurs précaires, pour les travailleurs du numérique. Alors là où on reste un peu plus sur sa fin, c'est sur le contrat social 2.0 que Nicolas Collin appelle de ses voeux. Et lui, plutôt que d'imaginer qu'on pourrait réparer la machine, qu'en gros qu'on pourrait prendre notre système social et l'améliorer, lui, il dit qu'il faut regarder vers l'avenir et surtout regarder vers les assurances privées. Donc il nous explique que, bon, y a plein d'exemples dans le bouquin, mais si on prend que l'assurance chômage, plutôt que justement se dire on pourrait l'ouvrir davantage aux travailleurs du numérique, aux indépendants, ce qui a été un tout petit peu fait. Et lui, il dit non, réinventons les assurances privées. Le problème, c'est qu'on connaît les dangers des assurances privées et tous les risques en matière de risques couverts, justement. Donc, lui, il ne croit pas à une politique unique, il ne croit pas vraiment au revenu universel, comme vient d'en parler Benoît Hamon. Lui, il parle d'un macro-dispositif. Alors, c'est un peu vague, on ne sait pas très bien. Il faut réinventer les assurances, donc. Il faut réinventer le syndicalisme, la formation tout au long de la vie. C'est pour vous, Laurent. La finance aussi nous dit il faut convaincre les banquiers de prêter de l'argent aux nomades, aux gens au CDD. Alors on est tous d'accord là-dessus, sauf qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. On voit pas très bien comment on peut passer ce cap. Et je trouve dommage que justement le système actuel soit un peu ringard aux yeux de Nicolas Collin et qu'il jette un peu trop vite le bébé avec l'eau du bain.
En tout cas, en ce qui concerne les livreurs, les travailleurs du clic, c'est ça. Hein,
absolument. Seulement eux, les start-upers aussi, enfin tous les travailleurs du numérique.
Laurent, Sandrine vous interpelle, vous l'avez lu également, livre, Laurent Bigorgne.
D'abord, je salue l'auteur qui a quand même énormément contribué à la compréhension du numérique en France, puisqu'il fait presque 10 ans qu'il écrit sur ce sujet. On lui doit un premier rapport sur la fiscalité numérique dans ce pays, je crois qu'il date de 2013. Et moi, j'ai plutôt aimé la description de ce qu'il appelle l'âge entrepreneurial, qui est un âge de transition. Et avec quelques rappels historiques qui ne sont pas inutiles, il nous dit, au fond, il est très rare qu'un pays qui a un très haut niveau de développement, dans un paradigme donné, conserve ce niveau de développement pour toujours ou dans le paradigme suivant. Et sauf s'il se passe des choses...
C'est peu rassurant.
Oui, c'est peu rassurant, sauf s'il se passe des choses très graves, ou si on fait appel aux migrations. Ce qui dit qu'au fond, le passage de la révolution industrielle des États-Unis a été rendu possible parce que c'était une société d'immigrés et qu'ils ont payé un assez lourd tribut. Alors il dit, on va sortir et de la vague migratoire, puisqu'en Europe on n'en veut pas, ensuite ce sera un débat, et on n'aura pas, disait-il, de catastrophe. Peut-être que l'époque actuelle lui donne tort, et donc il cherche, comme le dit Sandrine, à inventer une troisième voie qui va donner aux entrepreneurs des facultés d'expérimentation, et on va essayer de régler les problèmes à petite échelle. C'est vrai qu'il est contre un macro revenu universel, et il le dit pour trois raisons. D'abord, il dit qu'au fond, cette idée qu'un revenu universel est très simple s'oppose à la complexité du contrat social qu'il faut parvenir à nouer à l'heure de l'âge entrepreneurial. Que cette idée, elle est trop simple par rapport à la somme des questions qu'il y a à régler. Deuxièmement, il nous dit que ça ne résistera pas à l'alternance politique, j'y crois pas un instant. Et troisième sujet, qui est, je trouve aussi assez intéressant, alors je ne dis pas que je suis convaincu, mais intéressé par les arguments, au fond, c'est une distraction, revenu universel, parce que les vrais sujets, ils sont ailleurs, ils sont sur la mise en place d'une assurance maladie universelle aux États-Unis, ils sont sur la refonte des régimes d'assurance chômage. Il faisait partie de ceux qui avaient inspiré, vous savez, Macron, en 2016, quand il voulait une assurance chômage qu'on pouvait tirer au fur et à mesure, et y compris sur la démission, sur la base d'une démission volontaire. Et il faut s'attacher à réguler mieux les marchés immobiliers urbains dans le monde. Et donc, au fond, le revenu universel, c'est une distraction politique face à des questions réelles qu'il faudrait pouvoir régler, sur lesquelles il faudrait travailler.
Alors, je n'avais pas prévu, mais donc, ok, on a la réponse de Benoît Hamon sur le revenu universel par Nicolas Collin. Ça s'appelle Un contrat social pour l'âge entrepreneurial et c'est publié chez Odile Jacob. Christian Chavagne, vous, dans le thème numérique GAFA, vous choisissez plutôt un zoom, une enquête sur un des grands acteurs de ce monde, Instagram.
Oui, l'application Instagram, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, notamment avec les fameux filtres. Sauf que, nous dit la journaliste de Bloomberg, Sarah Frayeur, dans Instagram sans filtre chez Duno, dès qu'on soulève les meubles, il y a un peu de poussière partout.
On écoute un extrait.
L'application ressemble à un appartement de standing, superbement décoré, mais fourmillant d'insectes nuisibles et dont la tuyauterie fuite. On procède à des réparations ici et là, on pose des pièges à l'occasion, on fait le ménage à fond pour accueillir au mieux les locataires. Mais les gestionnaires de l'immeuble ne disposent pas de ressources suffisantes pour détecter le départ des fuites, ni pour vérifier s'il n'existe pas un problème structurel. Et tout cela parce que les entreprises de réparation doivent d'abord s'occuper du bâtiment de Facebook, qui est beaucoup plus vaste.
C'est une image, Christian, évidemment.
Ah ouais, je trouve qu'elle résume bien toute l'enquête de Sarah Fryer. Instagram, pourquoi ça m'a intéressé? Parce que l'autrice nous dit c'est le capitalisme de l'ego. Et c'est vraiment ça, un petit peu, ces réseaux sociaux. Le gars, il est jeune, hein, il s'appelle Kevin Systrom, il n'a pas 26 ans. Il sort de chez Google quand il crée avec un autre gamin de Stanford, Instagram en octobre 2010. Alors, le storytelling, c'est Kevin Systrom, il adore les photos, il a été en Italie, il adore l'art, il veut des belles photos, notamment avec les fameux filtre Instagram, d'où le titre du bouquin Instagram sans filtre. Sauf qu'il n'est pas là pour animer un club de photographes amateurs. Il veut vraiment faire de l'argent avec son application. Il a comme ami Jack Dorsey, fondateur de Twitter, qui va faire de la pub avant même qu'Instagram existe. Il a le premier jour quelques designers qu'il va utiliser pour faire des magnifiques photos. Le premier jour, il y a 25 000 personnes qui créent un compte. Au bout d'un an, ils sont 6 millions. Et la première année, il y a Justin Bieber qui arrive. Il y a tellement de monde qui arrive qui fait exploser le serveur, le jeune serveur d'Instagram. Avril 2012, on est 2 ans après seulement. Mark Zuckerberg se dit, oulala, ça les gens
voilà
qui...
Voilà Facebook.
Ouais, voilà Facebook. Là, les gens qui vont passer du temps à mettre en scène leur vie de manière magnifique, ils vont pas venir sur Facebook. Ils rachètent tout de suite, alors que la start-up a 2 ans, ils rachètent tout de suite Instagram. Et là, c'est le développement d'un business commercial terrible. C'est l'arrivée du clan Kardashian qui va se mettre à vendre tous ses produits sur Instagram. C'est la naissance de ce que, dans le bouquin, elle appelle les Insta-fame. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ne sont rien du tout. Vous avez une dame qui récupère un chien malingre, qui l'élève, qui fait 3 photos. Le compte d'Instagram reprend ses photos. Du coup, cette dame se trouve invitée sur tous les plateaux de télé. Elle fait de la pub pour les aliments pour chiens et chats. Elle écrit un livre. Enfin, elle devient une Insta famous. À un moment donné, Facebook dit « Vous êtes bien développé, mais maintenant je reprends la main. » Et là, c'est le pire du pire. Quand Zuckerberg reprend la main, plus de pubs, publicité cachée, foyer de désinformation russe, achat de followers, escroquerie, vente illégale d'opioïdes. C'est pour ça qu'on avait cette fameuse conclusion de Sarah Fryer. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil d'Instagram, mais malheureusement, attention à ce qu'il y a sous les meubles et derrière les murs.
Et attention aux GAFA. Tiens, j'en profite pour signaler le livre de l'économiste Joël Toledano, la spécialiste de la régulation des marchés. Ça s'appelle GAFA, reprenons le pouvoir. Parce qu'elle dit que ce sont des killers de ces GAFA. Tiens, c'est justement des killers d'innovation. C'est à lire chez Odile Jacob.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et c'est toujours On n'arrête pas l'écho spécial fête. 3e grand thème de notre sélection de livres, de BD, de films, de docu. Les femmes, des ouvrages sur le genre, vraiment formidables cette année. Sandrine, allez, on démarre avec un livre à la charnière du numérique et de ce sujet du genre. Le livre d'une spécialiste de l'inclusion des femmes dans le numérique.
Oui, ça s'appelle Les Oubliés du numérique, alors Les Oubliés EES hein, d'Isabelle Collet aux éditions Le Passeur. C'est un livre de 2019, mais il a eu le prix Pôle emploi 2020. C'est un super bouquin. Isabelle Collet, c'est une chercheuse de l'Université de Genève, donc une grande spécialiste du genre et du numérique. Son bouquin est truffé d'études, de références. Et ce qui est étonnant, c'est que jusque dans les années 80, les femmes étaient assez présentes dans l'informatique. Elles étaient même jusqu'à 50% dans les filières d'écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, on est plutôt à 12%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que l'informatique est devenue une affaire sérieuse. Et quand on devient une affaire sérieuse avec des bons salaires, ça devient une affaire d'hommes. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les femmes, quand elles sont diplômées, y compris de l'informatique, elles occupent 15% des fonctions dans la tech, dans la technique, et 75% des fonctions support. Donc, les fonctions support, vous savez, c'est les ressources humaines, l'administratif. Mais ce qui est intéressant, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Et là, Isabelle Collet travaille beaucoup sur l'enseignement supérieur, parce qu'elle dit, évidemment, les entreprises nous disent, on peut pas recruter des femmes parce qu'il n'y en a pas dans les écoles. Donc, c'est pas des recettes miracles, mais en fait, ça marche. On voit que ça marche, par exemple, dans les universités comme Carnegie Mellon aux États-Unis. Ils ont beaucoup plus de femmes. On travaille sur le recrutement, on travaille sur l'attractivité. Ça marche. Donc, évidemment, il y a d'énormes chantiers à ouvrir comme l'intelligence artificielle et les algorithmes qui sont, vous savez, souvent conçus de manière sexiste. Il y a beaucoup de chantiers à ouvrir. C'est un bouquin passionnant.
Alors, beaucoup de chantiers. On va en parler aussi avec notre seconde invitée qui vient de nous rejoindre. Bonjour Céline Bessière. Bienvenue.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et avec votre consoeur Sybille Golac, vous avez écrit ce livre, Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités. C'est aux éditions La Découverte. Ça se dévore. Ça nous parle aussi bien de l'ex-femme de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, que de la gilet jaune Ingrid Levavasseur. Et ça nous démontre que si on veut comprendre comment perdurent les inégalités, il va sérieusement falloir lever le voile sur ce qui se passe dans la famille. Comment comprendre, c'est ce que vous révélez, que au XXIe siècle, les inégalités de patrimoine dans la famille, en fait, ne cessent de se creuser.
Oui.
C'est le constat.
C'est le constat. Alors en fait, on a l'habitude de travailler les inégalités économiques entre les hommes et les femmes sur la sphère professionnelle et concernant les salaires. Et avec Sybille Golac, nous, on est allé regarder ce qui se passe dans la famille. Alors, c'est compliqué parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis, bien sûr, la famille, c'est privé. Donc, il a fallu aller dans les études notariales, rencontrer dans les familles toutes les personnes, les faire parler de leur succession, de leur séparation. Et en effet, et ça a été appuyé également par les données statistiques qu'on a, l'inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes s'accroît en France aujourd'hui. Elle est passée de 9% en 1998 à 16% en 2005.
Ça veut dire que les femmes, c'est prouvé aussi, travaillent au moins autant que les hommes, mais elles accumulent moins et ça se passe à des moments clés, c'est ça ?
Oui, alors les femmes travaillent plus que les hommes quand on compte le travail domestique et professionnel. Donc en fait, 2/3 du travail des femmes n'est pas rémunéré. 2/3 du travail des femmes est gratuit. Pour les hommes, c'est l'inverse, c'est seulement 1/3 et 2/3 de leur travail est rémunéré. Donc, elles gagnent moins. Elles gagnent moins chaque mois. Et dans les couples de sexes différents, l'écart de revenus entre les hommes et les femmes, c'est pas les 25% dont on a l'habitude, c'est 42%. Donc c'est en fait colossal. Les hommes et les femmes en couple, en France, aujourd'hui, l'écart de salaire dans les couples, c'est 42%. Et le moment où ça se voit, c'est le moment des séparations conjugales. Parce que là, eh bien, on constate l'appauvrissement des femmes et le grand problème des familles monoparentales qui sont parmi les familles les plus pauvres.
Question de Sandrine Foulon.
Oui, alors il y a le divorce, mais il y a aussi l'héritage. Hein, et c'est censé quand même être égalitaire en France et entre les enfants. Vous constatez que l'entreprise familiale, ou quand il y en a une, ou les maisons sont plus données aux garçons, les filles reçoivent de l'argent. Et vous parlez d'une comptabilité inversée au moment de la répartition des biens quand on va chez le notaire. Alors comment ça se fait? Comment ça marche?
Oui, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'on pourrait se dire, bon ben aujourd'hui en France, 2020, bientôt 2021, le droit est égalitaire. Et en effet, depuis le Code civil, équirépartition du patrimoine, 1804, hein, le Code Napoléon, les fils et les filles, quelle que soit leur position, leur ordre de naissance, sont censés avoir la même part, les mêmes droits sur l'héritage de leurs parents. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en pratique, il y a quand même de l'inégalité qui se reproduit. Et cette inégalité, en fait, elle est à la fois légitimée et cachée par ce qui se joue dans les études notariales. Donc, ce qu'on montre, c'est que la manière de compter, c'est que, en fait, les successions sont organisées autour de biens structurants. Donc, quand il y en a une entreprise, ça va être une entreprise, mais ça peut être des biens immobiliers. Et ces biens structurants sont transmis davantage aux fils qu'aux filles et même aux premiers des fils. Et donc, ce qui va se passer dans les études notariales, c'est créer des sortes d'équivalences pour que, sur le papier, tout ça ait l'air bien égal, alors que en pratique, eh bien, ces biens structurants peuvent être sous-évalués ou bien tous les biens peuvent ne pas être comptés dans les successions. Et on en donne de multiples exemples dans le livre.
Vous mettez sérieusement en lumière le rôle de ces professionnels du droit. Là, vous parlez des notaires, mais il y a aussi les avocats, les magistrates au moment du divorce. Que se passe-t-il avec la prestation compensatoire ?
Oui.
Vous les mettez en cause, hein, ces professionnels du droit quand même.
Oui, alors il y a d'abord le droit, parce que la prestation compensatoire, on pourrait se dire, c'est le mécanisme du droit qui va permettre la compensation des inégalités de niveau de vie au moment crucial des séparations conjugales. Et d'abord, la prestation compensatoire, ça s'applique qu'aux couples mariés. Ça veut dire que pour tous les couples qui ne sont pas mariés et qui se séparent, il n'y a pas de prestation compensatoire. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est que en 2000, il y a eu un grand changement qui est passé assez inaperçu, qui est le fait que les prestations compensatoires ont cessé d'être versées sous forme de rente, mais sont désormais versés sous forme de capital. Et ça, ça a conduit à réduire drastiquement le champ d'application des prestations compensatoires qui sont désormais, qui ont beaucoup diminué en termes de montant et qui sont réservées aux personnes riches qui ont un patrimoine disponible pour verser la prestation compensatoire. Et pour en venir à votre question...
Les magistrates,
puisque aujourd'hui, les juges aux affaires familiales, c'est à trois quarts des femmes, sont très réticentes à fixer des prestations compensatoires. Alors, on explique ça dans le livre, on lit ça aussi, à qui sont ces magistrates, comment elles ont fait carrière, qu'est-ce que c'est que leur vie familiale à elles-mêmes, comment elles ont dû se battre pour faire carrière et comment elles voient d'un assez mauvais œil l'idée de verser une prestation compensatoire pour d'autres femmes qui n'auraient pas, autant qu'elles, réussi leur carrière professionnelle.
Il y a la prestation compensatoire justement, mais il y a aussi les pensions alimentaires. On voit dans le bouquin qu'elles sont pas souvent versées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout ça? Est-ce qu'il faut réformer la fiscalité des prestations compensatoires, des pensions alimentaires, des successions?
Alors il y aurait en fait beaucoup de choses à faire. Sur les pensions alimentaires, le constat c'est qu'elles sont d'un montant faible. Et c'est toujours les femmes qui doivent faire les démarches. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a frappé. La revalorisation, donc 1er janvier, mesdames, si vous touchez une pension alimentaire, vous pouvez demander la revalorisation de cette pension alimentaire. Mais c'est aux femmes de le faire. Donc en fait, ce qu'on montre, c'est que les femmes sont dans toutes ces institutions-là, elles sont demandeuses. Et on dit même dans le livre mendiantes, en fait. Elles doivent réclamer. Donc il y aurait beaucoup de choses à faire au niveau de la caisse d'allocation familiale, pour que l'allocation de soutien familial, qui est la pension, l'allocation versée quand la pension alimentaire justement ne l'est pas, que par exemple cette allocation de soutien familial ne soit pas supprimée quand les femmes se remettent en couple. Bon, voilà, ça c'est une petite chose. On pourrait étendre les prestations compensatoires à l'ensemble des couples et pas seulement aux couples mariés. On pourrait revaloriser l'ensemble de ces pensions. Et puis en matière de succession, je pense que un des enjeux du livre aussi, c'était de mettre le doigt sur ce qu'on ne veut pas voir et sur ce qu'on ne voit pas. Parce que tout ça se déroule dans le secret des familles. Ce qu'on montre dans le livre, c'est que les femmes ne sont pas dupes. Hein. Elles le savent, en fait, bien souvent, quand elles n'ont pas reçu autant que leurs frères en matière de succession. Mais elles ont été socialisées, on dit, nous, sociologues, c'est-à-dire qu'on les a formées à être celles qui ne font pas de vagues, et voire même plus celles qui font du lien familial. Donc, un enjeu pour elles, c'est que les gens ne s'engueulent pas. Voilà. Et donc, du coup, un des enjeux du livre, c'était de montrer qu'au bout du bout, quand on met tout ça bout à bout, ce qui se passe au moment des successions, ce qui se passe au moment des séparations, et la vie de travail aussi, et tout ce travail qui n'est pas compté des femmes et qui n'est pas rémunéré, eh bien, il y a un prix économique à ça, et c'est ce prix
patrimonial. C'est la dépossession. La dépossession, vous employez ce mot. Ça s'appelle Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités. C'est à la découverte, Céline Bessières. C'est passionnant, et vous restez avec nous. Autre livre au chapitre genre et économie, on va passer à complètement autre chose, allez voir. C'est Laurent Bigorne qui nous a sélectionné un livre sur le foot féminin, Laurent.
Oui, comme les garçons, l'économie du football féminin par Lucas Rondel et son co-auteur Richard Dautoit. On leur doit déjà en 2018 l'argent du foot, aux très sérieuses éditions du CEPREMAP. Et j'ai trouvé le livre à la fois très, très intéressant, y compris parce qu'il donne une perspective historique. On n'est plus en 2002, à l'époque de la sortie du film, vous en rappelez peut-être, Joue comme Beckham, une jeune fille d'origine sikh cachée à Londres de sa famille. Et d'ailleurs, les auteurs nous invitent dans les premières pages du livre à réapprendre que le premier match féminin a eu lieu en 1880. À la fin de l'époque victorienne, que c'est avec la Première Guerre mondiale et celle qu'on a appris les munitionnettes que le football féminin a connu un véritable essor. Il n'y avait plus d'hommes et donc les femmes se sont mises à jouer au foot, y compris pour des matchs de charité. Et puis ensuite, le foot est retombé dans l'anonymat dans les années 20-30. Il s'est même heurté à des interdictions jusqu'à réapparaître. Et puis on le sait, la dernière Coupe du Monde, celle de 2019, a été un grand succès populaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ensuite en termes d'économie? Il y a un monde qui est certes en forte croissance depuis 10 ans, mais quand même, le foot féminin aujourd'hui, économiquement, c'est 1% du foot masculin. Le rapport des salaires, il est de 1 à 60. Et quand on regarde en moyenne le budget d'un club de foot féminin en France, c'est 2 millions. Le budget d'un club de foot masculin, c'est 105 millions d'euros par an. Les auteurs, ils disent qu'il faut 3 phases pour développer le foot. Il y a trois choses importantes pour développer le foot féminin. La formation d'un maximum de joueuses, la professionnalisation et la multiplication des clubs, le développement des infrastructures, c'est ce qui a notamment été fait aux États-Unis. Et puis, il faut bien pousser à la médiatisation. Et donc là, les médias doivent prendre leurs responsabilités, sachant que ils décrivent aussi la situation aux États-Unis en nous disant qu'il y a une affluence dans les stades, en même temps elle est toute relative, qu'il y a un certain nombre de franchises féminines qui sont beaucoup plus développées qu'en Europe. C'est à la fois mieux qu'en Europe, sans être extraordinaire, et c'est vrai qu'on a encore pas mal de chemin à faire si on veut que le foot féminin se développe.
Christian, ben, je ne veux pas finir ce chapitre sans vous laisser citer un ouvrage.
Oui, Hélène Périvier, l'économie féministe. Est-ce qu'on peut être à la fois économiste et féministe? Oui, nous dit l'auteur. Attention, le livre est passionnant, mais un peu universitaire.
C'est publié à Sciences Po Éditions.
Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
Oh, fuck off!
Why shouldn't we do all the news?
Well, Kim Jong Pop, because that's not how things work in this country.
It's my company.
You are a fucking nobody.
Et on arrive à notre dernière partie, la partie coup de cœur. Sandrine, j'ai l'impression que vous avez beaucoup regardé la télé pendant ce confinement.
Bah, comme tout le monde. Oui.
Là, c'était un extrait de la série Succession, c'est sur OCS.
Oui, c'est une série HBO de Jesse Armstrong. Bon, c'est génial, c'est excellent. C'est, on plonge dans l'univers d'une famille d'un milliardaire totalement dysfonctionnel. Le père, c'est un mania de la presse qui pourrait diriger Fox News pour le côté ultra-droite. Il est brutal, il est atroce, il manipule ses quatre enfants. Il leur fait espérer qu'ils vont diriger l'Empire. Les ressemblances avec les familles Trump et Murdoch sont assez frappantes. Tout ça sur fond d'OPA hostile que le patriarche Logan Roy veut déjouer. C'est d'un cynisme absolu sur le fonctionnement des médias aux États-Unis. Bon, confinement ou pas confinement, il faut regarder cette série.
Ok, on va faire ça. Un film également ?
Oui, alors, on a pu regarder un film qui est sorti d'ailleurs deux fois, entre la première et la deuxième vague, c'est Dark Waters de Todd Haynes. C'est avec Mark Ruffalo, qui est très convaincant, en avocat d'affaires à contre-emploi. Il se met à défendre un fermier de son village de Virginie-Occidentale, parce que ce fermier lui dit que ses vaches sont contaminées par Dupont de Nemours, qui rejette ses déchets dans les cours d'eau. Dark Waters, c'est l'histoire vraie de ce géant de la chimie qui a sciemment caché que la production de Teflon, vous savez, le revêtement anti-adhésif...
Des poils, si, je sais bien, oui.
Exactement. Eh bien, provoquait des tas de cancers. Le film est remarquable. Il est dans la veine, vous savez, des Erin Brockovich, mais sans côté hollywoodien. Mark Ruffalo est exceptionnel. Il n'y a pas ces grandes plaidoiries d'avocats. C'est vraiment le travail acharné de fourmi d'un homme contre une multitude d'avocats d'affaires.
Donc ça s'appelle Dark Waters et le film est réalisé par Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Tim Robbins et Anne Hathaway. Et puis pour finir, vos coups de cœur, un livre, Sandrine.
Oui, alors un gros coup de cœur, c'est Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi chez Payot. Alors, ça fait toujours plaisir d'avoir entre les mains un livre qui déjoue les idées reçues. Et là, Denis Colombi le fait parfaitement bien. Denis Colombi, c'est un sociologue, prof de sciences éco dans un lycée. On a tous entendu que les pauvres dépensaient à tort et à travers. Ils achètent des méga écrans géants. Ils s'abonnent à Netflix. Or, en fait, le sociologue explique que vraiment, les dépenses des pauvres obéissent à un fonctionnement extrêmement rationnel. Quand on a 170 euros pour finir le mois en dépenses non contraintes, ben, en fait, ça demande un gros savoir-faire. Il dit, pour reprendre l'expression de la sociologue Anna Perrin-Heredia, que vous citez aussi d'ailleurs Céline Bessière dans votre livre, ces gens, ce sont des gestionnaires de l'impossible. Alors, par exemple, tout dépenser dans un caddie en une fois, ça répond à une logique, parce que vous savez que comme ça, l'argent, il ira dans la nourriture, il ira pas ailleurs. Donc, en fait, bon, il y a beaucoup de choses à raconter dans ce bouquin, ouais. Mais vraiment...
Un gros coup de cœur.
Oui, et l'acheter, c'est une dépense utile.
Ah. Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi chez Payot. Laurent, vous, votre coup de cœur, il nous ramène aux États-Unis avec ce livre de Joan Williams.
Exactement, sur la classe ouvrière blanche, qui est un livre qui a été publié en 2017, que l'auteur a publié après l'élection de Trump. Là, on a l'édition, la deuxième, et elle paraît en France. C'est un livre qui va nous inviter à ne pas refermer trop vite la parenthèse. On veut la refermer, mais à ne pas refermer trop vite la parenthèse Trump, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et revenir sur les phénomènes qui ont fait que les élites américaines se sont écartées de la classe moyenne. Vous lirez le livre et vous découvrirez ça. Le livre a rencontré un certain succès aux États-Unis. L'auteur a rencontré Biden, Pelosi, Sanders, Kamala Harris pendant la campagne qui d'une certaine façon sont tous venus vers elle. Et c'est un peu un livre miroir de celui qui avait marqué, scandé la campagne en 2016 de James David Vance, Hillbilly Elegy, qui racontait bien passé de hauteur et qui montrait bien à quel point la société américaine s'était formidablement creusée au point, et j'en termine là, que en 2016, 23% des électeurs de la classe moyenne décrite par ces deux auteurs avaient voté Clinton, 30% cette fois-ci Biden, ça a sans doute fait toute la différence.
On écoute un petit extrait.
Pourquoi les élites courent-elles après la nouveauté alors que la classe ouvrière recherche la stabilité? D'abord, parce que les élites ont les moyens de s'offrir la nouveauté. Une carambole coûte plus cher qu'une banane. Mais ce n'est pas tout. En faisant étalage de leur raffinement, les élites gagnent en reconnaissance sociale. La classe ouvrière a d'autres chats à fouetter.
Laurent, vous nous rappelez le nom du livre, le titre du livre et le nom de son auteur.
John C. Williams, La classe ouvrière blanche, surmonter l'incompréhension de classe aux États-Unis.
Et le coup de cœur de Christian Chavagneux, notre lecteur invétéré. Et
pour que vive la mémoire de Jules Durand. L'affaire Jules Durand, quand l'erreur judiciaire devient crime, c'est par Marc Edrich, un magistrat chez Michelon. C'est l'affaire Dreyfus de la classe ouvrière. Les patrons de la Transat en ont marre d'une grève au Havre en 1910. Ils vont faire accuser injustement de meurtre le leader syndical Jules Durand qui est là pour négocier. Il va être condamné à mort. Heureusement, des Jean Jaurès, des Durkheim vont se mobiliser pour le réhabiliter. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas voir tout ça puisqu'il est devenu complètement fou. Il est enfermé dans un asile. Aujourd'hui, on commence à réhabiliter grâce aux travaux des historiens et des magistrats Jules Durand pour que vive la mémoire de Jules Durand.
C'est publié chez Michelon, l'affaire Jules Durand, quand l'erreur judiciaire devient crime, par Marc Edrich. Céline Bessière, notre invitée, vous nous avez aussi apporté un livre.
Oui, un livre d'histoire. Ne nous libérez pas, on s'en charge, pour le plaisir de prononcer le titre de ce livre, écrit par trois historiennes, Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel. Donc trois historiennes de trois générations différentes qui font une histoire longue des féminismes. Et c'était pour rappeler que ces enjeux d'égalité économique entre les hommes et les femmes, on ne serait pas là pour en parler s'il n'y avait pas eu tous ces combats féministes sur le long terme.
Parfait, bien nous terminons ce Magéco spécial fête sur ce message. Toutes les références se trouvent sur la page de l'émission, sur franceinter.fr. Christian, les auteurs d'Alternatives économiques ont bien travaillé pour raconter vos 40 ans. Défricher l'économie de Denis Clerc, c'est publié au bord de l'eau. Et puis au seuil, on a la renaissance des campagnes de notre ami Vincent Grimaud. Et puis votre livre, Les plus belles histoires de l'escroquerie, Christian Chavagneux. Merci à toute l'équipe, Caroline Pommès et Anna Leverzo, Claire Chaudière, Hélène Philly, Manuel Ruffez, Maxime Debs. Amis auditeurs, auditrices, nous vous souhaitons de belles fêtes. La semaine prochaine, Fabien Cazot sera au micro. Quant à moi, je vous retrouve le 9 janvier.